avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et durant les 20 prochaines minutes, vous commentez l'actualité de votre choix, vous revenez sur les principaux événements de ces derniers jours. C'est l'occasion aussi, vous le savez, de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment, selon vous, à l'antenne. C'est la libre antenne, vous parlez, vous commentez, en toute liberté évidemment, l'actualité qui vous marque. 33 9 693 693 70, les réseaux sociaux, Twitter, mais aussi Facebook, la page officielle de l'émission, il y en a plusieurs. Hein. L'officiel, c'est RFI Appel sur l'actualité. On va commencer à s'intéresser au Tchad, où l'on attend les résultats de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Je vous rappelle que 13 candidats sont en lice, dont le président sortant Idriss Déby Itno, qui brigue un cinquième mandat. Bonjour Béral.
Bonjour Wanda, bonjour à tous.
Vous êtes à N'Djamena, et comme tous les Tchadiens, évidemment, vous attendez avec impatience les résultats, mais vous les attendez avec une certaine inquiétude.
Oui, je les attends avec une certaine inquiétude, du simple fait que je ne comprends pas très bien le délai de 2 semaines que propose la CENI avant les résultats, du simple fait que nous avons suffisamment, avec les moyens de communication, les moyens de transport qui sont importants aujourd'hui, je pense que le délai aurait pu être plus court.
Alors, c'est vrai qu'on nous a dit, dès la fermeture des bureaux de vote, que la proclamation des résultats pourrait prendre 2 semaines. La CENI a annoncé qu'elle donnerait les résultats provisoires d'ici le 23 avril. Et en même temps, quand on voit tout le processus, c'est un vrai travail de fourmi de récupérer les PV, de les compiler, de les analyser, etc. etc. Vous craignez quoi, vous, que ce délai de 2 semaines n'encourage la fraude?
Oui, je pense que c'est un délai qui peut favoriser peut-être des manipulations de résultats, surtout dans les zones rurales qui sont difficiles d'accès ou qui ne sont pas sous les feux des projecteurs médiatiques, etc. Donc, par le passé, la CENI nous a montré que, je vais donner l'exemple de 2001 par exemple, où en quelques heures, le président de la CENI nous a dit bon, deux candidats sont au coude à coude par rapport aux résultats qui seraient proclamés le soir. Et puis le soir même, le président sortant a été élu dès le premier tour. Donc tout cela, pour moi, ce délai de 2 semaines augure peut-être des résultats qui ne seraient pas tout à fait ceux qui sortiraient des urnes.
Ouais. Ne raccrochez pas, Béral, on vous retrouve dans un instant. Je voudrais qu'on accueille De La Ville, qui est dans le sud du Tchad, à Koumbouara exactement. Bonjour De La Ville.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons. Est-ce que vous partagez les inquiétudes de Béral?
Bon, franchement, non. Si Béral fait allusion à l'élection 2011, mais il oublie en même temps que pendant ces temps, il y avait tellement de revendications, il y avait des dénonciations tout azimut. Donc moi, je pense que la CENI s'est donnée assez de temps pour éviter qu'il y ait encore les mêmes réclamations, les mêmes problèmes.
Donc vous attendez les résultats avec sérénité. En même temps, c'est vrai qu'on peut trouver ce délai de 2 semaines un peu long.
Ben, j'attends avec sérénité. Pour moi, le délai de 2 semaines ne pose absolument rien du tout. L'élection s'est déroulée dans le calme, dans la transparence relative, et je dirais même totale, si je n'abuse pas. Alors, s'en tenir juste au fait que le délai de 2 semaines soit trop long, pour moi, ça veut absolument rien dire.
D'accord. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes satisfait déjà du déroulement de ce scrutin, effectivement, dans le calme, hein, globalement. Les Tchadiens se sont déplacés en grand nombre pour élire leur nouveau président. Béral, vous avez voté calmement. Tout s'est bien passé dans votre bureau de vote à N'Djamena?
Personnellement, oui, mais je suis au 6e arrondissement de N'Djamena, qui est plutôt un arrondissement bien placé, mais dans les autres arrondissements périphériques, le 7e, le 9e, etc., ça a été un cafouille total parce que beaucoup de bureaux de vote ont par exemple manqué simplement de bulletins, insuffisance de bulletins. Pour, vous avez 500 inscrits dans un bureau de vote et au bout de 150 votes, après il n'y a plus de bulletins pour le faire. Et il y a des endroits où des urnes ont été enlevées de force par des personnes pas du tout indiquées, etc. Mmh. Et là, je parle des quartiers périphériques de Diabena. Je n'ose même pas imaginer les zones reculées à l'intérieur du pays.
Ouais, enfin, globalement, les observateurs se disent satisfaits du bon déroulement du scrutin présidentiel. Merci Béral, bonne journée à Djamena. Je remercie de la ville qui nous appelait de Koumra. Allez, encore une réaction du chat, puisque vous êtes nombreux hein, à souhaiter nous faire part de votre impatience à connaître le verdict des urnes. Bonjour Malcolm.
Bonjour Juan.
Vous êtes également dans la capitale tchadienne. On vous écoute.
Je suis dans la capitale tchadienne et j'ai aussi circulé un peu dans le pays. Ce qui nous inquiète, c'est que le délai de 15 jours, c'est un peu excessif. Parce que par département ou par région, 3-4 jours suffisaient à compiler les résultats. Donc on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à 2 semaines. Tout est suspendu au bout du fil. Mais ce qui inquiète le plus, Monsieur Juan, c'est un peu le fait qu'avant les résultats, on déploie les chars combat et les hommes de troupes dans des zones qui ne sont pas des zones de conflit. J'ai vu des chars combat entrer dans Moundou. Moundou n'est pas une zone de rébellion. Nous sommes en élection, donc ça c'est un peu des signes précurseurs qui inquiètent. Et là, dessus, on a vraiment peur.
Ouais, vous espérez un second tour, Malcolm?
Pardon?
Je dis, vous espérez un second tour?
Oui, un second tour n'est pas à exclure. Un second tour n'est pas à exclure. Je vous dis déjà que le vote est un peu ethnique d'abord. Et puis, il y a des candidats comme, je peux le nommer, Saleh Kadzabo, qui a fait la différence. Donc, on espère plus qu'un, on espère tous qu'il y ait un second tour.
Saleh Kadzabo, puisque vous le citez, qui est présenté comme le chef de l'opposition, lui a dénoncé dès dimanche des bourrages d'urnes et des ventes de cartes d'électeurs. En tout cas, pour vous, Malcolm, selon votre perception du vote des électeurs, il ne peut pas y avoir un coup KO, il ne peut pas y avoir une victoire dès le premier tour du président sortant.
C'est impossible dans la mesure où nous sommes là, on a pris la température du milieu. Malheureusement, au Tchad, il n'y a pas des instituts de sondage pour sonder les électeurs aux sorties des urnes. Oui. Sinon, on allait déjà avoir les tendances et puis tout est bouclé. Mais que tout le monde grandit de cette élection et qu'on sort mature, que notre démocratie saisit cette occasion pour vraiment s'implanter et montrer la maturité. Parce qu'on a peur, ceux qui ont des choses à se reprocher fassent leur mea culpa. Et que le peuple sort grandi de cette élection.
Bon, c'est en substance ce qu'a dit exactement mot pour mot le président Idriss Déby, même si vous souhaitez que l'opposition remporte, mais Idriss Déby, en sortant du bureau de vote dimanche, a dit « Le Tchad doit sortir grandi de ces élections ». On parlera évidemment du Tchad ensemble, dès que nous aurons connaissance évidemment des résultats de la présidentielle, des résultats de la Commission électorale nationale indépendante. C'est la Libre Antenne, vous réagissez à l'actualité de votre choix. Je pense qu'on va retrouver, vous savez, le Ali qui ouvrait l'émission il y a maintenant une quarantaine de minutes. Nos techniciens s'étaient trompés en rappelant un auditeur. Bonjour Ali.
Bonjour.
Vous êtes à Ouagadougou, c'est bien ça. Et vous nous disiez donc tout à l'heure vouloir nous interpeller sur la décision du Burkina Faso de renoncer au coton transgénique. Vous êtes un militant anti-OGM, hein?
Oui, je précise bien que Ali Tapsoba est un activiste des droits humains, militant anti-OGM, président de Terre à Vie et porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie.
D'accord. Alors, le Burkina Faso a été l'un des premiers pays africains à opter pour la culture du coton génétiquement modifié, en partenariat avec le géant américain Monsanto. Le coton fait vivre à peu près 4 millions de personnes au Burkina Faso. Et évidemment, vous, en tant que militant anti-OGM, vous saluez l'initiative de votre pays. C'est-à-dire qu'on va plus produire de coton transgénique?
Oui, on salue l'initiative des firmes de coton qui viennent de déclarer qu'ils vont totalement abandonner le coton BT, c'est-à-dire le coton génétiquement modifié, pour revenir au coton conventionnel. Parce que depuis plus d'une dizaine d'années, nous avions déjà dénoncé cette situation parce que nous avions déjà l'expérience de l'Inde où le coton Bolgar 2 de Monsanto avait échoué. Et en tant que militants anti-OGM, nous avons dit que le même coton ne pouvait pas réussir au Burkina. Mais les autorités, le régime de Blaise, naturellement, le POC, ne nous a pas écoutés. Et l'histoire vient nous donner raison.
Ouais, l'histoire vous donne raison puisque les rendements ne sont pas bons avec le coton OGM et la fibre est de mauvaise qualité, ce qui est vraiment un problème pour le Burkina Faso qui avait la réputation d'avoir un très très bon coton à travers le monde.
Oui, effectivement, nous avions déjà dit que le coton BT avait une fibre qui est courte et comme le coton se vend au poids, naturellement, sur le marché international, on n'allait pas pouvoir convenablement vendre ce coton. Et c'est ce que les firmes de coton viennent eux-mêmes de constater, parce qu'ils ont évalué les pertes qui se chiffrent environ entre 48 et 50 milliards.
Et vous allez poursuivre votre combat, Ali, après la décision de ne plus produire du coton transgénique?
Oui, nous allons poursuivre notre combat, parce que le désastre du coton ne se limite pas seulement aux aspects économiques. Oui, mais il y a des aspects au niveau environnemental, au niveau social, au niveau sanitaire, même du point de vue éthique. Et ça, ce sont des aspects difficilement irréparables. En plus, lorsque nous avons vu notre conseil des ministres d'avant-hier, la réaction du ministre de l'Agriculture, il ne parle pas d'un abandon total du coton OGM, mais il parle d'un abandon progressif. Il s'est même permis de dire qu'à côté du coton conventionnel, il se pourrait que des gens se donne le droit de continuer à cultiver à côté du coton OGM, chose que nous refusons catégoriquement. Alors, d'ailleurs, c'est dans cette perspective de combat-là que vous aurez les 22 jusqu'au 24 avril les rencontres internationales des résistances OGM, où nous avons des chercheurs, oui, des activistes des continents qui vont venir à Ouagadougou.
Oui. Et pas seulement du continent, parce qu'effectivement, j'ai vu l'organisation de ces journées anti-OGM. Il y a même des Français. Je crois que j'ai même vu apparaître le nom de José Bové. Donc, il y a voilà des personnalités européennes et africaines qui vont débattre autour de la question des OGM. Merci, Ali, de nous avoir interpellés sur cette actualité. Bonne journée à vous à Ouagadougou. Nous nous intéressons maintenant aux tensions sur le campus universitaire d'Abidjan. On en parlait d'ailleurs ce matin dans les éditions Afrique avec notre correspondant sur place, les étudiants qui nous appellent pour témoigner. Bonjour Daniel.
Bonjour Juan.
Alors, depuis le début de la semaine, les étudiants manifestent, les cours sont paralysés. Il y a eu des heurts entre étudiants et forces de l'ordre, je crois que c'était mercredi. Que se passe-t-il, Daniel?
Ce qui se passe actuellement, c'est que ces manifestations font suite à une décision de l'administration universitaire, c'est-à-dire en l'occurrence le CRU, qui demande aux étudiants de libérer la cité pour loger les athlètes des Jeux de la Francophonie qui se tiendront en juillet 2017. Et cette décision demande aux étudiants de libérer la cité en juillet 2016.
Oui, parce qu'on vous demande d'évacuer les résidences universitaires pour les rénover et ensuite accueillir donc les athlètes dans un an, les athlètes des Jeux de la Francophonie. On attend 3700 athlètes en tout à Abidjan pour ces Jeux. Ça signifie que la plupart des étudiants se retrouvent à la rue?
Effectivement, vous savez que le relogement des étudiants ne se fait pas entièrement puisque nous avons près un reliquat de plus de 730 étudiants qui seront sans situation, sans solution. Et c'est vraiment malheureux parce que ces étudiants-là sont encore prendre leurs cours, se dispensent sur le campus. Donc ça sera difficile parce qu'il faudrait que ces étudiants soient logés et ils n'ont pas de situation. Vous savez que nous avons des difficultés au niveau de la capacité d'hébergement puisque les autres cités universitaires ne sont pas encore mises à la disposition des étudiants.
Oui, enfin, justement, ce qu'on propose les autorités, c'est de reloger les étudiants dans les cités universitaires de Port-Boué, de Mermoz, de Riviera. Ça ne vous convient pas, vous?
Oui, puisque dans l'immédiat actuellement, c'est-à-dire les étudiants ne prennent pas au cours. Il y a des amphithéâtres qui dispensent encore des cours. Donc pour le moment, c'est-à-dire dans la question immédiate, demander aux étudiants de libérer la cité pour sans situation immédiate serait véritablement une décision suicidaire. Ouais. Et là, nous dénonçons véritablement un manque de communication et d'implication de la part de nos autorités qui, avant de prendre une telle décision, n'associe pas l'ensemble des acteurs du système universitaire, c'est-à-dire les étudiants et les associations d'étudiants, en vue de trouver des solutions véritablement efficaces et durables.
Bon, bah, rappelez-nous, Daniel, tenez-nous au courant de l'évolution de la situation. En tout cas, vous avez été plusieurs à nous appeler du campus universitaire d'Abidjan pour témoigner de la situation sur place. Michel, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes en région parisienne et vous nous interpellez, vous, sur le Sahara occidental et notamment sur l'avenir de la mission des Nations Unies, puisque d'ici la fin de la semaine, donc d'ici la fin du mois, donc dans les 15 prochains jours, le Conseil de sécurité de l'ONU doit renouveler le mandat de la MINURSO.
Oui, et une fois de plus, depuis 25 ans, parce que ça fait 25 ans qu'il y a cette mission au Sahara occidental, hein, après 16 ans de guerre où on en est à 25 ans de cessez-le-feu, et la mission de l'ONU devait donc organiser un référendum d'autodétermination, comme le prévoit la charte de l'ONU et la résolution de 1960. Donc ce référendum n'aboutit pas, mais surtout, depuis longtemps, les Sahraouis réclament, et les organisations internationales, et même beaucoup d'organisations comme Human Rights Watch, Amnesty, le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, il y a 2 ans, il y a eu 120 associations internationales qui réclamaient à l'ONU que cette mission soit, comme toutes les missions de l'ONU en zone de conflit, dotée d'un volet sur la surveillance des droits de l'homme. Mmh. Et à cela, disons principalement la France, s'oppose à cette situation.
Ouais, le Maroc, évidemment, n'en veut pas. On voit que les relations, en tout cas, se sont tendues récemment entre le Maroc et les Nations Unies. On en a parlé ici, dans cette émission, avec des auditeurs qui posaient des questions. Ban Ki-moon s'est rendu pour la première fois, et c'est en fin de mandat, diront certains, donc un peu trop tard, dans la région, un voyage consacré au Sahara occidental. Il a tenu des mots quand même qui ont choqué les Marocains, puisqu'il a évoqué la colonisation du Sahara occidental par le Maroc. Et donc, depuis, la tension s'est renforcée, d'où l'inquiétude, peut-être la vôtre aussi, je ne sais pas, Michel, de voir ce mandat être renouvelé, mais avec des difficultés. Le mandat de la MINURSO.
Je ne sais pas s'il y aura des difficultés. Ce qu'il est clair, c'est que le Conseil de sécurité s'est réuni quand même 3 fois à huis clos pour parler de cette situation et de la manifestation incroyable que le Maroc a organisée à Rabat. Alors, ils annoncent 3 millions de personnes. Je ne sais pas où ils les mettent à Rabat, 3 millions de personnes. Mais 3 millions de personnes avec des ministres pour conspuer le secrétaire général de l'ONU. Ce qui est quand même incroyable que ce roi se permette tout cela vis-à-vis de l'ONU. Alors, quand on vous regarde la liste des territoires non autonomes dans le monde, le Sahara occidental est le plus grand, c'est le seul qui n'a pas de puissance administrante, ce qui a été reconnu aussi par la Cour de justice européenne. C'était l'Espagne qui était puissance administrante, depuis qu'elle est partie, c'est le seul territoire, donc le Maroc n'a aucun mandat international sur le Sahara, il n'y a aucun pays dans le monde qui reconnaît que le Sahara occidental est sous souveraineté marocaine. Ouais. Donc il faut quand même être clair, la 4e commission de décolonisation de l'ONU examine tous les ans cela. Si c'est pas une colonisation, c'est quoi?
Bon, je vous interromps, Michel. On arrive à la fin de l'émission. On avait d'autres auditeurs qui souhaitaient réagir sur d'autres sujets. Malheureusement, tout le monde a été un peu bavard ce matin. En tout cas, merci de nous avoir appelé, Michel. On aurait pu parler du PSG. Tommy voulait absolument parler du PSG, de l'élimination cette semaine pour la 4e fois consécutive en quart de finale de la Ligue des Champions. Tommy, vous inquiétez pas, on vous rappellera, c'est promis. D'autres auditeurs souhaitaient également revenir sur la situation au Congo-Brazzaville. Là aussi, on en reparlera la semaine prochaine. Lundi, en tout cas, on va s'intéresser aux commissions Vérité et Réconciliation, puisqu'il y a 20 ans, jour pour jour, l'Afrique du Sud mettait en place une commission unique au monde pour faire la lumière sur les crimes politiques durant l'apartheid. Le modèle sud-africain a ensuite suscité des émules. On l'a vu au Libéria, au Togo, plus récemment en Côte d'Ivoire, prochainement d'ailleurs en Centrafrique. Alors, quel bilan dressez-vous de toutes ces commissions? Y a-t-il eu vérité, justice et réconciliation dans vos pays? Et dites-nous justement, là où vous nous écoutez en ce moment, si ce pays-là, si votre pays a besoin lui aussi d'une telle commission. On va en parler lundi. D'ici là, évidemment, le standard reste ouvert. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire. 33 9 693 693 70. Bon week-end à tous et merci à l'équipe, évidemment. À lundi.
Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144 dièse.
Claire Edon, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue.